Chers amis, chers frères et sœurs, c'est pour mon épouse qui est là-bas, pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou ne la reconnaîtraient pas, elle est là et je tiens à la présenter parce que c'est ma plus proche collaboratrice, ma meilleure équipière depuis bientôt 37 ans. Et je bénis Dieu chaque jour pour le cadeau qu'il m'a fait de la mettre à mes côtés dans le service que Dieu nous a confié et que nous remplissons dans notre complémentarité. Donc n'oubliez jamais s'il vous arrive de prier pour Maurice Decker, que ce n'est qu'une petite moitié d'un couple. Pensez à son épouse. Merci pour l'accueil. Merci, cher frère. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi êtes-vous venu ici ce soir? Elle est importante, cette question. Parce que c'est de la qualité de nos motivations que beaucoup de choses dépendent. On peut venir en consommateur pour remplir un certain devoir. Ou bien on peut venir, mes bien-aimés, en chercheur de Dieu, avec le désir profond de le rencontrer. On ne vient pas à une conférence. On vient parce qu'on a soif de Dieu, parce qu'on veut mieux le connaître, dans un monde difficile, où la vision de Dieu est d'une importance absolument capitale, beaucoup plus que la vision de notre nombril. Et vraiment, je voudrais vous supplier de la part de Dieu, et je n'hésite pas à utiliser ce terme, vous supplier de concevoir dans votre esprit, avec le secours de Dieu, cette série de trois rendez-vous comme des rendez-vous avec le Dieu vivant et qui veut être sensiblement présent au milieu de nous. Alors, cette série ne s'inscrira pas comme une petite parenthèse un peu luxueuse dans le programme d'une vie d'église locale. Mais ce sera un moment de rendez-vous peut-être capital pour la vie de certains d'entre nous. Un de mes plus grands bonheurs devant Dieu dans ce ministère, c'est quand 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça fait presque 40 ans que ça dure, quelqu'un vient me voir en me disant, vous savez, vous ne le savez pas frère, mais il y a 5 ans en arrière, à telle ou telle de vos réunions, Dieu m'a rencontré d'une manière toute particulière et ça a été un changement dans ma vie. Alors qu'il en soit ainsi, d'une manière ou d'une autre, peu importe que nous le sachions, que nous ne le sachions pas, mais oh que Dieu nous rencontre. C'est là, en tout cas, mon aspiration. J'aimerais ajouter ceci, d'ordre aussi très pratique. Nous avons trois temps de partage et d'écoute des Écritures. Ce soir, demain soir et dimanche matin dans le cadre du culte. Nous n'allons pas, pour chacune de ces rencontres avec Dieu, rester dans un cadre très strict, cloisonnant en quelque sorte l'ensemble en trois parties très distinctes les unes des autres. Ce sera plutôt une sorte de fondu enchaîné. Ou demain soir, nous reprendrons peut-être quelques aspects de cette soirée pour pousser plus avant, et où dimanche, nous ferons de même. Ceci pour souligner que, dans toute la mesure du possible, et si ce n'est pas possible, il y a l'enregistrement, mais dans toute la mesure du possible, considérez vraiment dans votre vision de cet effort la totalité, l'ensemble de ce que nous allons voir. Et non pas une conférence, en vous disant que vous pouvez facilement vous passer de la suite, parce que nous allons construire d'ici après-demain matin. Et enfin, dernière remarque, vous le savez, s'il est un thème très abondant, très généreux et très riche en pièges, c'est bien celui de la souffrance, puisque c'est là le terme utilisé qui figure sur les papillons d'invitation. Alors je ne veux pas un seul instant, m'engager sur un chemin qui voudrait être celui d'un touche-à-tout, qui passerait comme chat sur braise sur toutes sortes d'aspects sans en traiter aucun en profondeur. Ce serait le meilleur moyen de nous conduire droit dans des pièges tellement nombreux sur ce sujet. Il m'est arrivé, dans le cadre d'églises locales qui m'invitaient de manière systématique, de traiter, encore une fois, certains aspects de ce thème sur 12 études. Nous n'en avons que 3. D'où le sous-titre que vous avez sans doute remarqué, celui que j'ai souhaité voir inscrit dans le cadre de cette série, parce que il pointe une spécificité toute particulière dans ce domaine de la souffrance sur les chemins incompréhensibles de Dieu. Nous y reviendrons. Donc nous allons vraiment nous attacher très spécialement à cet aspect des chemins incompréhensibles de Dieu dans nos vies. Je vous encourage à suivre avec moi dans vos Bibles 2 lectures. La première, dans le 5e livre de Moïse, dans le Deutéronome, livre de l'Ancien Testament stratégique, s'il en est, d'une extrême richesse pour la vie du disciple de Jésus-Christ. Et dans le Deutéronome, au chapitre 8, je lirai pour vous, mais lisez dans votre cœur, avec moi, je lirai les versets 2 à 5, Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 5. Souviens-toi, et c'est un des thèmes, le souvenir qui parcourt d'ailleurs le Deutéronome avec des jalons bien précis tout au long du récit et des enseignements. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir, littéralement pour pénétrer, un terme fort, quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur ou pénètre en ton cœur, tu as pénétré ton cœur, que l'Éternel, ton Dieu, donc tu connais en profondeur, par expérience, que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Nous allons vers la Nouvelle Alliance et vers le quatrième évangile, l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean au chapitre 12, dont j'extrais pour nous les versets 23 à 26, où Jésus répond à certains de ses disciples qui viennent de lui transmettre une requête de la part de quelques Grecs. Ceci est précisé dans les versets précédents. Je lis donc au verset 23, « Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Pour vous qui êtes, en tout cas pour certains d'entre vous, je le suppose et je l'espère, des habitués des Saintes Écritures, de la Bible, vous savez qu'au cœur de l'Ancien Testament se trouve le sixième livre de toute la Bible par sa longueur. Je veux parler ici simplement du livre de Job. Ce livre de Job est donc un récit fait aussi de dialogues extrêmement difficiles, un récit dramatique au cœur des Écritures. C'est l'histoire d'un homme qui a tout pour lui et tout pour Dieu. Un homme heureux, riche, à la tête d'une grande famille de 10 enfants, un homme estimé de tous, membre influent et honoré du conseil des anciens de sa cité, bref, une personnalité influente. Mais aussi, et d'abord, un homme intègre, un homme au cœur entier pour Dieu, un homme entièrement soumis à Dieu, respectueux de Dieu et fidèle envers lui, un homme droit, un homme ayant une rectitude morale, honnête en affaires, incorruptible. Et subitement, va s'ouvrir devant lui une voie, un chemin terriblement incompréhensible. Et que je n'hésite pas ici, en me mettant de son côté, a désigné comme un chemin énigmatique. Pour nous, nous avons un avantage, comme très souvent dans les Écritures, à savoir que nous avons la solution. Et nous avons tendance, hélas, beaucoup trop souvent, lorsque nous lisons les Écritures, à ne pas nous mettre dans la peau de ceux qui n'ont pas la solution. Et c'est ce qui ôte toute une saveur, tout un relief aux Écritures. Il importe que nous comprenions que nous sommes appelés, et c'est pour cela qu'il y a des textes biographiques dans les Écritures, nous sommes appelés à nous incarner, à nous identifier, à nous mettre dans la peau, à nous dire « mais comment est-ce que j'aurais réagi si j'avais été dans sa situation sans savoir tout ce que je sais ?» Subitement, l'orage fond sur lui, les épreuves s'abattent en rafales successives. Il y a les drames engendrés par la méchanceté humaine qui alternent avec les catastrophes naturelles, ce que nous appellerions aujourd'hui, et nous en avons un échantillon en ce moment, les caprices de la météo qui peuvent être ravageurs. Du jour au lendemain, cet homme pieux, cet homme qui craint Dieu, cet homme qui l'aime de tout son cœur, qui vit une vie d'intégrité, une vie de droiture, un homme habité par une profonde crainte respectueuse de Dieu. Du jour au lendemain, cet homme est ruiné. Ses biens sont pillés par les brigands, ses ouvriers assassinés ou brûlés vifs. Il est privé de ses enfants, tués sous les décombres de leur maison, abattus par une tornade, un ouragan. 10 cercueils de ses bien-aimés viennent bientôt s'aligner sous ses yeux et sous ceux de son épouse, parce qu'il est subitement privé de ses enfants, tué, comme nous venons de le dire. Le voici frappé ensuite d'une lèpre noire, la plus redoutée de l'Orient, avec de terribles démangeaisons, purulente de surcroît, de la tête aux pieds. L'homme est défiguré, méconnaissable, expulsé de la ville, qui n'a de refuge qu'au dépotoir municipal, à la décharge publique, lieu de prédilection des chiens errants. Et comme si c'était insuffisant, sa chère épouse se révolte et le pousse à maudire Dieu. Et puis, pour couronner le tout, c'est l'incompréhension de ses meilleurs amis, le mépris, les insultes, la fureur théologique. Et qui sait si la fureur théologique peut être terrifiante aujourd'hui encore? Le tableau est impressionnant, et c'est la solitude complète. Voyez le chapitre 19, les versets 13 à 20. Un écrivain français écrit ceci pour parler à ceux qui souffrent. Il faut savoir changer de langage, entrer sur la pointe des pieds, c'est si fragile, le royaume des larmes. Et quelqu'un d'autre, je le découvrais récemment, décrire quand quelqu'un est dans le creuset, beaucoup de paroles sonnent creux. Le mot creuset ayant la même racine que notre mot latin crux, croix, qui symbolisait la torture. La même personne de dire les gens qui souffrent attirent les beaux parleurs comme les accidents de la route attirent les vautours. Quarante-deux chapitres qui sont consacré à un homme qui est sur un chemin incompréhensible de Dieu. Un chemin insondable, impénétrable, dont on ne peut découvrir la trace ou la suivre jusqu'au bout. Pourquoi ? Un homme de Dieu qui a beaucoup souffert, qui est auprès du Seigneur maintenant, a écrit ceci: ce ne sont pas les problèmes quotidiens qui transforment notre paradis en champ de bataille. Ce sont les agressions sournoises. Nous ne sommes tout simplement pas préparés au virage serré que la vie nous impose. Ces tournants inattendus sur la route. Au moment précis où nous commençons à contrôler notre existence, nos mains s'engourdissent et nos points d'exclamation s'arrondissent en points d'interrogation. L'inattendu, l'inexpliqué, voilà ce qui nous déséquilibre. Et c'est ici que nous glissons vers la spécificité de nos trois rendez-vous pour considérer la souffrance, ce terme générique qui englobe tant de situations, tant de circonstances différentes, tant de sensibilités différentes. La souffrance, vue comme une école vers la maturité spirituelle. La souffrance, école vers la maturité spirituelle. J'ai sous les yeux cette citation d'un point de vue culturel. Le christianisme contemporain a redéfini la maturité spirituelle. Les chrétiens du temps de la Réforme savaient que nous sommes sauvés pour glorifier Dieu. De nos jours, par contre, nous vivons pour être bénis. Aujourd'hui, nous pensons que les gens mûrs sont ceux qui ont du succès, qui sont heureux et efficaces. Nous sommes attirés par les messages, les livres et les conférences qui révèlent les secrets de l'épanouissement et non par le chemin spirituel de souffrance qui nous conduit jusqu'au Père. Nous nous soucions davantage de mener une existence confortable que de laisser Dieu nous transformer spirituellement au travers des épreuves de la vie. Certains d'entre vous le savent, un de mes tout premiers livres, Fidèle quoi qu'il en coûte, qui avait été d'abord publié par une autre maison d'édition en France, et je faisais partie à l'époque de l'équipe de fondateurs de cette maison d'édition, a été donc repris par la Maison de la Bible, qui, dans une deuxième édition, lui a donné un autre complet veston, une autre devanture, une autre présentation extérieure, pour l'intégrer à une liste d'ouvrages du même type publié par la Maison de la Bible. Beaucoup ne connaissent donc pas la jaquette de la première édition. Et la jaquette de la première édition a une particularité que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un magnifique diamant qui scintille. Tout simplement parce que celui qui a réalisé cette maquette a bien sûr lu le livre et a été attiré par ce diamant et a voulu le reproduire dans le contenu de la jaquette. Quel est un moyen sûr de faire la différence entre un faux et un vrai diamant? Alors, il existe aujourd'hui des moyens scientifiques à partir de rayons, mais sans cela. Alors, je n'ai pas d'expérience, parce que je ne sais pas si nous avons des diamants chez nous, mais ça m'étonnerait bien. J'ai lu, et puis bien entendu, je me suis renseigné chez un ami bijoutier qui a fait toute sa carrière dans ce domaine, pour savoir s'il y avait quelque chose de juste dans mon affirmation, ce qu'il m'a confirmé. Un moyen sûr de faire la différence entre un faux et un vrai diamant, c'est l'épreuve de l'eau, tout simplement. Puisqu'un faux diamant, paraît-il, ne brille jamais comme un véritable, et sous l'eau, le faux diamant est éteint, alors que le vrai diamant continue à scintiller. L'épreuve de l'eau. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Et vous savez que dans les multiples significations de l'eau dans les Écritures figure précisément celle de l'épreuve, des circonstances difficiles. Ces circonstances difficiles étant des révélateurs de l'authenticité de notre foi. Nos circonstances difficiles sont de véritables radiographies du cœur. Et dans ce sens, l'épreuve est une preuve d'authenticité. Je pense à cette expérience faite par ce missionnaire et fondateur de mission Hudson Taylor, qui en Chine, un jour, dans un enseignement qu'il donnait, a subitement placé un verre plein d'eau devant lui, et puis, tout en continuant sa prédication, de temps en temps, il donnait un de ses coups de poing très énergiques sur le pupitre, et bien entendu, le verre peu à peu se vidait, parce qu'il avait des secousses suffisantes pour que peu à peu tout soit mouillé autour, et qu'il n'y ait plus rien d'eau dans le verre. Alors, les personnes présentes se demandaient pourquoi il faisait cela, ce n'était pas dans ses habitudes, et puis quand le verre a été à peu près vide, elle dit, vous voyez, il ne peut sortir de ce verre que ce qui était dedans. Il ne peut sortir de nos vies dans ces coups de poing que représentent les épreuves de nos circonstances que ce qui est à l'intérieur. C'est donc véritablement une preuve qui permet pour nous de nous situer, de savoir où nous en sommes. Et hélas aussi, parfois tristement, les autres peuvent aussi se rendre compte de notre qualité de témoin de Jésus-Christ à l'heure où les coups de poing nous frappent. Mais le diamant est intéressant aussi dans sa définition. Un diamant, et je prends la définition telle quelle, qui n'est pas ultra scientifique, mais qui est tout à fait correcte. Un diamant est un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. Et quelqu'un a eu raison d'écrire, de même que les diamants sont formés par la pression et les perles par l'irritation, la grandeur est forgée par l'adversité. Les circonstances difficiles sont les outils privilégiés dont Dieu se sert pour façonner une vie chrétienne authentique. Et les souffrances, les difficultés sont donc une école de formation du vrai disciple. L'épreuve en cela est donc une école d'authenticité. Quelqu'un écrit ceci, « La souffrance plante le drapeau de la réalité sur la forteresse du cœur rebelle. Elle est un révélateur. » Quelqu'un d'autre décrire, « Le Seigneur nous fait entrer dans sa chambre noire pour développer notre caractère. » J'ai parcouru 1 mille aux côtés du plaisir. Qu'il était donc bavard. Il babillait sans cesse, mais il ne m'est resté ni savoir ni sagesse de tous les beaux discours dont il crut m'éblouir. J'ai parcouru 1 mille aux côtés du chagrin. Tout le long de la route, il resta bouche close. Cependant, oh combien il m'enseigna de choses tandis que nous étions tous les deux en chemin. Nous considérons donc, répétons-le, la souffrance comme école de formation de l'homme spirituel, du disciple adulte, en nous souvenant qu'il n'y a pas de vraie croissance sans souffrance. Cela est inscrit dans la croissance physique, cela est inscrit dans la nature, dans la création, dans son ensemble. Et bien entendu, cela est inscrit dans la vie spirituelle. Et ici, ce soir, je ne pensais pas le citer, mais j'aimerais vous citer aussi cet extrait intéressant. Dès le début de leur vie chrétienne, certains jeunes montrent des qualités prometteuses qui, développées peu à peu, pourront leur permettre de devenir des serviteurs utiles à Jésus-Christ. D'autres, par contre, bien que nantis de dons, ne tardent pas à rétrograder et à couvrir de déshonneur le nom du Seigneur. Pourquoi cela, demanderez-vous? Permettez-moi de vous répondre franchement. Certains traits fondamentaux dans la constitution de chaque serviteur détermineront si celui-ci pourra être utilisé par le Seigneur ou non. Un jeune homme peut présenter certains traits de caractère prometteurs pour l'avenir, mais si d'autres essentiels lui manquent, il ne sera qu'un sujet de désappointement. Même s'il désire ardemment servir le Seigneur, il peut ne pas manifester les dispositions du véritable serviteur. Par exemple, nous n'avons jamais vu un serviteur de Dieu qui manque de maîtrise de soi devenir un bon ouvrier, ni une personne désobéissante être de quelque utilité pour le Seigneur. Pour qu'un serviteur de Dieu puisse donner pleine satisfaction, il faut donc qu'il remplisse certaines conditions, aussi un travail de brisement et d'édification doit-il s'opérer en lui. Pour pouvoir aller plus loin, ce que nous allons dire maintenant va constituer une sorte de toile de fond pour toute la suite de notre réflexion jusqu'à sa troisième partie dimanche matin. Nous devons de répondre aussi clairement que possible à une question. Quelle est la place de Dieu ? Et quelle est la place de Satan dans la souffrance, dans nos circonstances? Quelqu'un a écrit, à partir de l'instant de votre conversion, le diable vous inscrit dans son carnet d'adresse. Et qui sait si cela est vrai? Alors, quels sont les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans les difficultés que rencontre le disciple de Jésus-Christ sur sa route? Toutes ces circonstances, toutes ces situations, toutes ces souffrances qui tissent la vie du croyant Et là, nous sommes en face d'un terme qui, dans la principale langue du Nouveau Testament, le grec, peut nous donner quelques sueurs froides. Un tout petit mot, et un tout petit mot qui va me conduire, pour que nous nous comprenions bien, à aller fouiller dans mon porte-monnaie pour en tirer la seule pièce de monnaie suisse, mélangée à mes euros, mais qui a un avantage sur nos euros, c'est qu'elle est nettement plus grande. Et c'est ce qui m'intéressait. Je parle ici de la pièce de 5 francs, qui paraît-il, on me l'a expliqué, a toute une signification symbolique très intéressante pour le croyant. Ça, c'est autre chose. Nous allons simplement, ce soir, considérer cette pièce comme le symbole de toutes nos circonstances difficiles, de ces souffrances qui nous attendent au détour du chemin. Peut-être y en aura-t-il pour quelqu'un d'entre nous cette nuit, pour d'autres demain. Ce n'est pas que je veuille vous faire peur, mais nous devons simplement être réalistes. Et nous allons donc considérer cette petite pièce comme la souffrance, avec son côté pile et son côté face, comme toute pièce. Et c'est là qu'intervient ce petit mot grec qui a cette particularité de pouvoir être traduit de deux manières. Il y en a d'autres qui peuvent être traduits d'un bien plus grand nombre de manières, mais là c'est intéressant. Ce terme grec peut être rendu par le mot épreuve et par le mot tentation. Nous retenons bien la souffrance, un côté, pile ou face, peu importe, le mot épreuve, de l'autre, le mot tentation. Alors nous allons simplement, et sans vraiment nous y attarder, vers la fin de nos Bibles, dans cet épître très pratique, qu'est l'épître de Jacques, après l'épître aux Hébreux, vous êtes presque à la fin du Nouveau Testament, l'épître de Jacques, une épître très dérangeante, mais d'une richesse pratique extraordinaire, et au chapitre premier, qui d'ailleurs, aussitôt après l'adresse et la salutation, traite de la question des épreuves. Au verset 2, mes frères, chapitre 1er donc, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, les épreuves variées, auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve, c'est un autre terme ici, le test, l'examen de passage de votre foi produit la patience, ou plutôt la constance, la persévérance, l'endurance, c'est un terme particulier, ce n'est pas le même terme que le fruit de l'esprit dans ses composantes, c'est un autre terme qui est complémentaire à celui-ci, d'une grande richesse lui aussi. Mais il faut que cette endurance, cette constance, cette persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, c'est-à-dire des adultes mûrs auxquels il ne manque rien, donc sans faillir en rien. Nous allons plus loin, verset 12. Heureux l'homme qui endure littéralement la tentation, voilà notre petit mot. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Vous remarquerez ici que notre connaissance de la personne de Dieu, du caractère de Dieu, est d'une importance capitale parce que cela rejaillit sur notre perception de la vie, des épreuves, des circonstances. Or, nous sommes aujourd'hui dans une église de Jésus-Christ qui, hélas, s'intéresse de moins en moins à la personne de Dieu pour se focaliser sur l'ego, sur le moi. Alors, ne soyons pas étonnés si, malgré la multiplicité, la multitude de livres qui traitent du bien-être, nous ne soyons pas pour autant plus à l'aise. Parce que ce n'est pas de la lecture de livres sur le bien-être qu'il faut compter, mais sur le développement de notre vision juste de Dieu, de ce que Dieu nous révèle dans sa parole de lui-même. C'est lui qui est important. Et on le remarque ici d'une manière toute particulière. Je lisais encore récemment un ouvrage sur la prière. Je suis en train de terminer un livre sur ce thème de la prière qui a été bouleversant pour ma propre vie. Et dans ce livre, l'auteur de souligner que Dieu tente. Verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Vous remarquez quelque chose de très intéressant ici. Nous serions tentés au verset 14, d'évoquer le diable. Qui dit tentation, dit le diable. Or, il est intéressant de constater que Jacques ne veut pas parler du diable. Et sans doute, cela vient-il que les lecteurs de sa lettre avaient des problèmes d'identification, des problèmes de vision, de compréhension du rôle de la puissance des ténèbres. Et de leur propre nature. Parce que derrière ces versets 14 et 15 se cache notre problème, c'est-à-dire que le diable, il a bon dos. Le problème est en nous. Le problème est en nous. Et l'ennemi ne fait qu'utiliser les désirs qui sont en nous, qui ici sont appelés convoitises, ces désirs de la chair, nous y reviendrons, du moi non régénéré, du vieil homme. Ceux qui me connaissent un peu plus savent combien j'aime cette expression de la maréchale Booth, l'hippopotame moi. Ça veut tout dire. Et l'ennemi, donc, est simplement là pour verser l'huile sur le feu, pour attiser la cendre, pour nous amorcer et nous conduire à la mort, mais c'est notre corruption naturelle, c'est la puissance du mal qui est dans notre nature propre qui est le problème. Alors béni soit Dieu pour la portée de la mort de Jésus-Christ sur la croix. J'ai été et je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc Dieu, j'y reviens, ne tente jamais. Le problème est en nous. Et Satan intervient, il verse de l'huile sur le feu, son but est méchant. Satan vise la destruction, il vise la chute, il vise la mort, il vise l'enfer, il pousse l'homme à pécher, il tend des pièges, et c'est pourquoi ce terme grec, rendu tantôt par éprouvé, tantôt par tentation, et parfois rendu par tendre des pièges. Lorsque les pharisiens éprouvent Jésus, certains traducteurs ont eu l'intelligence de mettre tendre des pièges. Parce que cela évite la confusion que nous allons voir dans un instant entre épreuve et tentation. Tenter, c'est donc mettre à l'épreuve. La tentation est une mise à l'épreuve négative de quelqu'un qui nous veut du mal. C'est la force morale de l'homme qui est mise à l'épreuve dans le but de le faire succomber. C'est la séduction, la sollicitation au mal, toute une dimension absolument négative. Dieu ne tente jamais. Par contre, Dieu éprouve. Dieu éprouve. Genèse 22, verset 1er, le sommet et le moment le plus difficile dans ces sept étapes de la formation de celui qu'on appelle le père des croyants, Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu met à l'épreuve. Il met à l'épreuve pour amener son enfant à un choix qu'il désire positif. Dieu veut faire du bien. Dieu veut construire. Dieu veut purifier. Dieu veut bénir. Dieu veut rendre fécond. Même si cette construction passe inévitablement par des phases de dépouillement. C'était là, par exemple, dans la décadence d'Israël, de Juda, du petit royaume de Juda, le grand message de Jérémie avec quatre verbes qui étaient des verbes destructeurs, mais il fallait ça pour qu'il y ait les deux verbes suivants qui se mettent en œuvre, verbes de reconstruction. Dieu vise le ciel. Il vise le ciel parce qu'il nous aime, et nous avons la suite du texte au verset 16 de Jacques 1. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu vise le ciel. Un homme de Dieu qui a beaucoup souffert écrit ceci. C'est l'un des aspects uniques de la souffrance, elle dissimule un dessein ultime de Dieu. Ce but poursuivi par Dieu est de nous corriger, de nous faire grandir, de nous permettre de passer au travers pour sa gloire. Paul dit que peu importe qu'il vive ou qu'il meure, il voulait que Dieu soit glorifié. Paul avait saisi le but ultime de Dieu. La souffrance en elle-même n'est qu'un véhicule par lequel Dieu nous élève, comme il a élevé Job. Job qui disait « Je t'avais entendu avec mes oreilles, mais depuis que j'ai traversé tout cela, je te vois avec mes yeux spirituels. » Dieu, à travers la souffrance, a accru l'aptitude de Job à le connaître. Il est passé de l'écoute de l'oreille à la vision de l'œil. Alors bien sûr, dans ce temps de la grâce qui est encore aujourd'hui, il y a ici et là, et on le voit dès l'aube de l'histoire de l'Église, des irruptions du jugement, des échantillons à l'avance de ce que sera le grand règlement de compte final. Il y en a déjà dans l'Ancienne Alliance, Sodome et Gomorre et d'autres. Il y en a dans la Nouvelle Alliance, Ananias et Saphira et d'autres, qui sont ces irruptions de ce que sera la colère de l'agneau au moment du règlement de compte final. Dieu ne tente jamais, Dieu éprouve. Mais alors pourquoi un seul mot pour l'épreuve et la tentation? Certains d'entre vous, peut-être, ont commencé à deviner la réponse, comme en filigrane derrière ce que nous avons dit, à savoir que chaque épreuve a sa dimension de tentation. Quand Dieu a éprouvé Abraham, la puissance des ténèbres était à l'affût et on peut imaginer tout ce qui a dû se passer dans le cœur d'Abraham sur le chemin qui le conduisait vers ce sacrifice terrible. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, la puissance des ténèbres est en embuscade pour essayer de profiter de tout ce qui peut se passer en nous pour nous amorcer et nous faire tomber dans la tentation. Chaque épreuve a sa dimension de tentation. Satan cherche à s'en emparer. Il est le pollueur. Et chaque tentation a sa dimension d'épreuve. Dieu veut nous voir triompher. Il veut nous faire du bien. Il nous accorde son soutien. Il est celui qui éprouve. Il est celui qui, dans sa souveraineté, sa sagesse infinie, permet la tentation, qu'il contrôle parfaitement. Et cela change notre regard aussi sur la tentation. Et certes, il est important de le dire après le Seigneur Jésus qui nous y invite dans la prière, le Notre Père, ne permet pas que nous entrions dans la tentation. Parce que c'est là le sens qu'il faut donner à l'expression utilisée, que nous ne nous prenions pas les pieds dans le tapis du diable. Le premier regard, ça va, le deuxième, dans nos vies, est problématique, et c'est comme ça dans quantité de domaines. Ô Seigneur, ô surtout, garde-moi, protège-moi, fais n'importe quoi, s'il te plaît, pour que je ne me laisse pas amorcer et que je commence à dialoguer pour accomplir la volonté de la puissance des ténèbres. Oh, ne permets pas que j'entre dans cette spirale destructrice infernale qui va me polluer et qui peut-être laissera des traces. Je le répète, Dieu éprouve et permet la tentation qu'il contrôle parfaitement. Quelqu'un écrit ceci, « La tentation n'est pas une raison pour se décourager, mais plutôt une occasion pour faire des progrès spirituels. C'est en effet à ce moment-là que notre armure est mise à l'épreuve et que manifestement, Satan voit en nous quelque chose d'assez précieux pour qu'il s'efforce de nous le dérober. » Nous pouvons être sûrs que là où campe l'armée de l'adversaire, là aussi se retrouve l'armée du Seigneur. Et c'est là alors que, après ce que nous venons de voir, s'inscrit en lettres indélébiles, en lettres d'or, ce magnifique texte d'1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation, c'est ce mot qui peut être traduit tantôt par épreuve, tantôt par tentation, et je bénis Dieu pour la traduction. Dans le contexte ici, vu ce qui est écrit au-dessus, c'est le mot tentation qui convient le mieux. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, une issue, afin que vous puissiez l'endurer, la supporter. Donc il faut l'endurer. Hein. Le texte nous dit qu'il faut l'endurer, il faut la supporter. Mais quelle promesse nous avons pour dire dans ces moments où nous sommes harcelés par la puissance des ténèbres, mais Seigneur, que dans cette situation, tu sois le grand vainqueur et que la tentation, je puisse l'avoir comme un moyen de grandir avec toi. Ça change tout dans nos vies. Alors, il se pose une dernière question. J'ai sorti cette pièce de mon porte-monnaie. Alors je vais la remettre, bien entendu, dans mon porte-monnaie avant de la donner à mon épouse parce que c'est elle qui tient l'argent suisse, n'est-ce pas? Dans quel porte-monnaie se trouve la pièce de la souffrance? C'est là la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas dans le porte-monnaie de la puissance des ténèbres. Les Écritures sont claires, cette pièce est dans le porte-monnaie de Dieu. Et cela, même s'il est tant de choses que je ne comprends pas et qui me resteront peut-être incompréhensibles jusqu'à ce que je rejoigne le Seigneur, et il en restera, oh combien. Je sais une chose, c'est que la pièce est dans son porte-monnaie à lui. Il est totalement souverain. Et dans sa souveraineté, il est merveilleusement sage. Alors, il est des textes qui le disent très fort, que nous ne pouvons pas commenter, mais néanmoins que je veux lire. Lorsque Job répond à sa femme qui le pousse à maudire Dieu dans le chapitre 2, verset 10, il lui répond « Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» C'est intéressant. Sans réaliser toute la portée de ce qu'il est en train de dire, il souligne la souveraineté de Dieu, qui n'est pas une sorte de maillon intermédiaire, mais qui permet. Et c'est ce que le livre de Job nous révèle, dès les premiers chapitres. Un Dieu totalement souverain. Regarde l'œuvre de Dieu, regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Ecclésiaste 7, 13, 14. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, 7. Qui est celui qui a dit, et cela fut, le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Lamentation de Jérémie 3, 37, 38. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos 3, 6. Des textes qui pourraient nous troubler. Si nous n'étions pas au clair sur cette différence entre l'épreuve et la tentation, dans la souffrance, et sur la souveraineté de Dieu qui éprouve et qui permet des situations de tentation. Quelqu'un écrit « Il m'apparaît que Dieu et le diable ont quelque chose en commun. Ils sont tous les deux blâmés pour bon nombre de choses qu'ils n'accomplissent pas. Quand quelque chose de déplaisant se produit, pourquoi l'attribuons-nous immédiatement au diable? Parfois, le plus grand triomphe de Satan consiste à nous faire croire que le sculpteur qui nous modèle est le diable et non Dieu. je bénis Dieu de tout mon cœur pour le jour où non seulement cérébralement, mais vraiment avec mon être intérieur, j'ai commencé à comprendre cette beauté de la souveraineté de Dieu qui autorisera l'apôtre Paul à conclure l'exposé doctrinal fondamental des 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains avec ces déclarations que certains d'entre nous connaissent bien et qu'ils relisent certainement bien souvent. Il est des choses que nous ne savons pas, n'est-ce pas ? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, et c'est vrai que parfois c'est tellement embarrassant. Mais nous savons du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans le texte grec, ceux qui aiment Dieu, c'est mis au deuxième plan. Nous savons, et puis immédiatement, pour ceux qui aiment Dieu, toute chose coopère à leur bien, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi glorifiés. Et puis plus bas, mais dans toutes ces choses, tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée, dans toutes ces choses, nous sommes des hyper-vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Combien cela nous encourage sur ces chemins parfois tellement incompréhensibles, que nous nous trouvons tellement énigmatiques. Savoir que Dieu reste aux commandes, même dans ces moments, et je l'ai éprouvé, dans des moments très difficiles, où j'ai l'impression qu'il se tait. Oh, merci Seigneur. Alors, chers bien-aimés, nous n'allons pas aller plus loin pour ne pas ouvrir une deuxième partie qui est en quelque sorte une application de ce que nous venons de voir ce soir. Nous avons fait un peu de doctrine. Demain soir, nous allons incarner la doctrine. Nous allons voir tout cela vivre, en particulier dans la confrontation entre deux personnages présents dans les Écritures. Et une fois que nous l'aurons vu, dans cette confrontation entre ces deux personnages, nous aurons tiré, en ce qui les concerne, tous les enseignements que l'on peut en tirer. Nous terminerons alors en actualisant, c'est-à-dire en cherchant comment appliquer cela à nos propres vies. Un petit pan de doctrine, une mise en acte dans la vie de personnages bibliques et une actualisation pour notre vie sur nos chemins incompréhensibles. Et puis dimanche matin, nous considérerons un autre aspect en partant d'une autre situation biblique pour terminer là aussi vers une actualisation pour notre vie de tous les jours à chacun. Nous voulons simplement encore nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes bien petits. Et c'est vrai, Seigneur, qu'il est tant de choses qui nous dépassent infiniment. Et qui nous font nous écrier comme tes serviteurs dans ta parole, que tes voies sont incompréhensibles. Mais merci aussi parce que ceux qui se sont écriés ainsi ont ajouté, parfois au même moment, parfois beaucoup plus tard, que finalement tes voies sont admirables. Il arrive que nous ne le voyons pas ici-bas. Mais ce n'est pas l'essentiel. Nous te bénissons pour la fiabilité de ta parole. Nous te bénissons pour tout ce que nous avons déjà vu de ta parole s'accomplir dans notre vie. Pour vérifier cette fiabilité. Nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu ne mens pas. Et Seigneur, tu nous en as donné avec une infinie patience de telles preuves que nous pouvons accepter ces situations incompréhensibles. Nous te remercions parce que tu ne t'es pas détourné de nous lorsque, parfois comme Job, et pourtant bien moins frappé que lui, nous avons crié notre souffrance. Nous avons crié nos pourquoi. Nous t'avons accusé de nos maux. Nous avons accusé ton silence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compréhension. Merci pour la manière dont tu as écouté tous les psalmistes qui ont crié leur souffrance. Et merci pour la manière dont au sein même de leur prière, tu as transformé leur vision. Ils se sont ressaisis en te contemplant. Et cela a tout changé dans leur vie. Seigneur, tu l'as fait aussi dans nos vies. À l'heure où tu vas ce soir nous raccompagner, chacun d'entre nous, merci de savoir que tu continues à travailler dans nos cœurs. Merci pour la beauté de ta personne, pour l'unité de ta personne, pour l'harmonie de ton caractère, pour l'absence de tension entre tes qualités. Merci de tout cœur pour tout ce que tu nous as déjà révélé de toi et qui nous aide dans nos situations de souffrance. Je te demande vraiment de nous rencontrer chacun individuellement et de bénir pour ta gloire à toi ces moments que nous passons ensemble sous ton regard pendant ce week-end. Nous t'aimons en Jésus-Christ, par le ministère du Saint-Esprit en nous. Nous te disons toute notre reconnaissance en son nom. Amen.